Nous venons de chanter « Ô précieux Sauveur, toi qu'adore notre âme, à nous de Dieu, seul digne et d'hommage et d'honneur, qu'ici-bas comme au ciel tout s'unisse et proclame ta force, ton pouvoir, ta suprême grandeur. » Nous allons prendre un texte qui emploie les mêmes mots pour décrire la même réalité. Un texte qui se trouve dans l'Apocalypse. Et nous allons prendre Apocalypse, le chapitre 5. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit : Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait sept couronnes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient : Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est ce que nous avons chanté : L'agneau immolé est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Il y a deux versets qui parlent de cet agneau immolé. Le verset 6 : Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept couronnes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et le verset 9 : Il est question des quatre êtres vivants et des 24 vieillards. Ils chantaient un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Un seul est digne. Partout, l'ange a cherché qui pouvait être digne. Et Jean, qui écrit ce livre, pleurait beaucoup parce que personne n'était digne jusqu'à ce que on se souvienne de l'agneau immolé, seul digne d'ouvrir les sceaux et même de prendre le livre et même de regarder le livre. C'est grâce au sacrifice de Jésus que nous sommes rachetés. Et c'est par ce sacrifice qu'il est digne de gérer ce livre. Et c'est pour cela que nous lui devons notre reconnaissance. C'est pour cela que nous devons lui rendre gloire. Et ce repas du Seigneur, il est là pour lui rendre gloire pour ce sacrifice. C'est écrit aussi au verset 8, comment doit se manifester notre reconnaissance? Comment est-ce qu'il s'attend à ce que nous le louions pour son sacrifice? Alors évidemment, par la scène que nous allons prendre, nous manifestons notre reconnaissance. Mais il y a un autre moyen qui est décrit dans ce texte. Je vous relis le verset 8. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfum. Et c'est quoi ce parfum? Qui sont les prières des saints? On le redit chaque dimanche. À l'issue de la scène, nous avons la possibilité de prendre la parole devant notre Dieu pour lui rendre gloire. C'est ce qui est attendu. C'est le contenu de ces coupes. C'est le parfum qui monte vers Dieu. Alors je vous invite maintenant à ce que nous prenions ce repas et à ce qu'ensuite nous fassions monter vers le Seigneur le parfum de nos louanges par la prière. Oui Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration, digne de regarder ce livre, de l'ouvrir. Seigneur, merci pour ton sacrifice. C'est par cela que nous sommes sauvés. Seigneur, nous ne pourrons jamais dire trop ni trop parfaitement notre reconnaissance envers toi. Seigneur, sois glorifié pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen.
Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre. Et on lira à partir du verset 19. Jean 1, 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Elles lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » ?»« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Alors, cette déclaration de Jean-Baptiste, elle est bien sûr capitale pour l'entrée du Seigneur comme l'agneau de Dieu dans le monde, puisqu'il est ainsi, et on l'a vu tout à l'heure pour la Sainte Cène, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et bien sûr que c'est pour nous cette joie de connaître cet agneau de Dieu. On lui a rendu hommage parce qu'on a pu, grâce à ce sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, que nos péchés soient ôtés. Que dans quelques temps, nous serons au ciel. Il faut que ce soit pour nous une grande joie ce matin. Et quand on regarde après ce verset 35, Et au verset 36, Jean était encore là avec ses deux disciples et ayant regardé Jésus qui passait. Alors j'ai recherché un peu, c'était ayant regardé Jésus qui marchait. Et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il a regardé cette fois Jean, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il l'avait déclaré, et il l'a regardé qui marchait. Et c'est d'une grande importance cette phrase. Il a regardé sa marche, en quelque sorte. Et il se passe une chose à ce moment-là, au verset 37, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Étonnante cette réaction. Il a entendu ces paroles, ils ont entendu, ils l'ont suivi. Et à ce moment-là, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ?» Et lui répondirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour. Donc il s'est passé cette réaction pour deux hommes, deux disciples. Ils ont entendu que c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et ils l'ont suivi. Et si on prend au verset 42, enfin on va dire le verset 41 au départ, ce fut lui donc qui rencontra le premier son frère Simon, donc c'était Pierre, hein, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ ». Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre ». Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Donc cette venue, cette déclaration de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, elle est immédiatement suivie d'un effet sur ceux qui sont là. Et cet effet, il est très clair, « Suis-moi ». Ça, il y a cette conjonction entre l'agneau de Dieu qui vient, qui ôte les péchés du monde, et ceux qui le regardent, et il leur dit à tous, « Suis-moi ». Voilà. Et si on prend, je vais vous le lire seulement, dans Marc 10, versets 46 à 53, c'est l'histoire de Bartimée, cet aveugle-né mendiant. Alors, il a appelé Jésus. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, Bartimée recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Il était aveugle comme nous, mendiant, misérable comme nous. Il a recouvré la vue, nous l'avons recouvré aussi. En ayant le pardon de nos péchés, que le Saint-Esprit soit venu. Et l'ordre de Jésus, pour chacun de nous, c'est « Suis-moi ». On voit donc, et c'est plusieurs fois dans la parole, il lui dit ceci. Et dans Jean 12, 26, le Seigneur dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Et un dernier passage, je vous le cite seulement dans Apocalypse 14, puisqu'on a pris Apocalypse 5 ce matin. Apocalypse 14, verset 4, il a ces phrases. « L'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de Dieu et de l'agneau sur leur front. Et ils chantaient la gloire de Dieu. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. » Ce sera dans le ciel. C'est que 144 000, quand on fait des recherches, ce n'est pas le nombre en lui-même. Il indique le chiffre du commandement. De quel commandement ? Du commandement dans le ciel, associé à la gloire de l'agneau, parce qu'ils ont suivi l'agneau partout où il allait sur la terre. Alors, Jean-Baptiste a donc dit que c'était l'agneau de Dieu, et ensuite il a dit qu'il l'avait regardé comme il marchait. Parce qu'il y a une grande importance dans cette phrase, parce qu'elle nous concerne, évidemment. Et si, puisque ce matin, le Seigneur nous a donné la même pensée, pour parler de l'agneau de Dieu, eh bien, il faut bien qu'on voit que l'agneau de Dieu n'a pas existé seulement pour venir en tant qu'agneau sur la croix. Il existe de toute éternité, et si on prend la parole, il existe depuis la fondation. L'agneau de Dieu était déjà présent, et dans l'histoire des hommes aussi, puisque pour Abraham, dans Genèse 22, 8, quand Dieu lui avait demandé d'offrir en sacrifice son fils, son unique, eh bien, Abraham a répondu à Isaac, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Donc, Jésus est l'agneau de Dieu avant d'être le nôtre. il appartient à Dieu et il est Dieu. Et Dieu avait besoin d'un agneau. En la personne de son fils, Dieu allait faire valoir ses droits. Car ce que je vois, ce que j'ai rarement vu, en fait, si on considère la parole, c'est que Dieu a des droits dans sa création, mais il a aussi des droits dans l'homme en particulier, puisque l'homme lui a été volé par l'attaque de Satan qui a provoqué la chute par l'introduction du péché. Et le service de l'agneau, dans son sacrifice pour nous, c'est de rétablir la communion, la réalité de la vie éternelle entre Dieu et nous. Et donc, ces droits qu'a Dieu sur la création et sur nous, eh bien, ils s'accompagnent, quand on y réfléchit, qu'il a droit aussi de notre part, mais ça on le fait d'après notre vie chrétienne, à une soumission et à une reconnaissance à l'agneau pour tout ce qu'il a fait pour son amour qui est si grand. Soumission et reconnaissante. Et en préparant ces paroles, j'ai vu dans mon cœur, je ne sais pas, vous verrez dans le vôtre, j'ai un manque de soumission fréquent et un manque d'amour pour l'agneau. Et que de luttes dans mon cœur, que de refus, que de discussions, souvent interminables, alors que Dieu me dit des choses qui sont évidentes dans sa parole. Que de discussions pour me soumettre à la parole de Dieu et pour me soumettre à l'agneau, puisque nous avons cette grâce de pouvoir parler de l'agneau ce matin. Et dans mon cœur, il y a cet orgueil qui lutte toujours contre ce que me demande le Seigneur par le sacrifice de Jésus. Alors que l'agneau de Dieu, eh bien, il est aux antipodes, il est tout à fait au contraire de mon insoumission, de ma rébellion. L'agneau de Dieu, c'est l'emblème de la soumission à son Père, mais aux hommes aussi. C'est l'emblème de l'obéissance à son Père et c'est l'emblème du sacrifice de sa vie pour les autres. Quelle grande chose que la personne de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, quelle signification dans toutes ses qualités. Et ces qualités qu'il y a dans l'agneau, eh bien, elles vont être obligatoires pour que nous puissions être transformés à son image. L'agneau de Dieu est venu pour prendre nos péchés, mais il est venu pour que nous soyons transformés à son image. Puisqu'il est dit dans Ésaïe 53, comme il est au verset 7, « Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. » Et on peut penser que c'est de la faiblesse, pas du tout. C'est la force de l'agneau. C'est sa force, c'est la soumission à son Père. Et c'est une prise de position aussi qu'il a eue. Et cette prise de position, pour être transformée à la ressemblance de l'agneau, Dieu veut nous la mettre dans chacun de nos cœurs, pour le reste de jours qui nous reste à vivre. Bien sûr que nous ne le pouvons pas. Il faut que ce soit lui qui le fasse. Mais il faut que nous le décidions. Combien j'ai de mal, souvent, à me décider à avoir mon esprit renouvelé par le Saint-Esprit dans la soumission, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu salutaire. Ordonner à mes sentiments mauvais, ordonner à ce qu'il y a souvent dans mon cœur des tempêtes intérieures. Peut-être vous connaissez aussi ça, hein, ces tempêtes-là qui nous privent de sommeil quelquefois, ces rancœurs, peut-être ces haines, qui entraînent des luttes terribles. Comment en être délivré? Eh bien, c'est l'agneau qui va nous délivrer. Vous savez, dans Jean 8, 36, si, on va reprendre un autre terme, si l'agneau vous affranchit, vous serez réellement libre. Il veut nous libérer de tout ce qui est produit du péché dans nos cœurs. Il veut nous en affranchir par sa croix, d'une façon réelle, pratique, dans les choses de notre vie et dans notre insoumission à Dieu. Alors, regardons à l'agneau de Dieu sur son chemin, puisque là, Jean a parlé de son chemin, qui va marcher chaque jour, parce que Jésus a une vie d'homme pratique, et cet agneau, il a marché chaque jour dans un cœur qui est soumis à son Père. Il a donné cet exemple du cœur humble, du cœur doux, du cœur soumis. Et c'est pour ça que la première de Pierre, au chapitre 2, verset 22-23, nous dit « Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et contemplons l'agneau, suivons l'agneau, puisqu'on a vu que plusieurs fois il dit « Toi, suis-moi, toi, suis-moi ». Et sur ce chemin, eh bien, le Seigneur, lui, a suivi ce que le Père lui demandait. Il a été dans une vie pratique, il a marché chaque jour dans sa consécration à Dieu, et il se retirait, on va examiner ça. On a cette notion de ce qu'il a fait par les miracles qu'il a fait, les actions qu'il a accomplies ou sa prédication. Mais si on regarde d'autres versets, sa vie sur la terre, la vie de l'agneau, c'était une vie en relation avec le Père, toujours. Il se retirait souvent pour être en contact avec son Père, pour connaître la volonté du Père. Dans Matthieu 14, 23, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Et la vie de l'agneau, ça a été une vie de solitude profonde, pour pouvoir être cet exemple parfait de l'homme nouveau, afin de pouvoir accomplir notre salut et nous donner la vie éternelle. Et dans Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Comme nous aimons ce verset, parce que c'est un tel exemple. Et dans Luc 3, 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Et en tant qu'homme, il va lutter jusqu'au bout, en tant qu'homme comme chacun de nous. Jusqu'à sa dernière prière, où il a fait un pas de plus, évidemment, pour accomplir parfaitement la volonté de son Père, le prix à payer était tellement lourd. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est pourquoi dans Marc 14, au verset 35-36, mais il y a aussi les autres évangiles, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. C'est une expression très forte. Il n'est pas mis à terre, il s'est jeté contre terre. Et il pria que, s'il était possible, cette coupe s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. » Il est allé au bout, comme un homme comme nous, de cette coupe terrible. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il a pu faire le sacrifice. Et en combattant les puissances du mal, le Sauveur a été profondément travaillé aussi dans son âme. Si nous pouvions comprendre, et Dieu veut nous le donner bien sûr, la place cachée de la vie du Seigneur Jésus, de cette vie de l'agneau, qui a dû avoir toute sa vie un cortège de luttes, de conflits, de souffrances contre le mal, contre l'ennemi et contre les hommes. Il devait donc chaque jour, pendant sa marche, c'est pour ça que le mot marche est si important, qu'a dit Jean-Baptiste, chaque jour, pendant sa marche, il a dû maintenir avec ses contemporains, avec ses ennemis, son cheminement, sa constance, sa progression, sa détermination. Et il nous est dit ceci après avoir fait tout ce chemin, dans Hébreux 2, verset 17-18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, c'est-à-dire à nous, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Soyons bien sûrs que dans toutes nos tentations, ça veut dire aussi les épreuves, dans toutes nos épreuves, aussi les tentations, dans toutes nos difficultés, il peut nous secourir parce que partout où nous sommes passés, l'agneau de Dieu est passé. Il a subi toutes nos souffrances, mais il a vaincu toutes nos souffrances et tous nos péchés. Et donc il peut nous secourir toujours. Et ce matin, reprenons encore courage, on en a tellement besoin, que nous ne sommes pas seuls dans la lutte que nous avons à mener. Nous ne sommes pas seuls, le Seigneur Jésus est avec nous. Et nous allons nous rappeler que pour qu'il soit avec nous, il faut que nous le suivions aussi, partout où il va. Et au bout du compte, au bout de ces paroles terrestres pour lui, mais pour nous, quel est l'aboutissement du chemin de l'agneau? Eh bien, on va prendre dans Apocalypse, et on aura des versets qui ressemblaient à ceux d'Apocalypse 5 tout à l'heure. On lira à partir du verset 4, Apocalypse 19. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Et les noces de l'agneau constituent le point culminant au-delà duquel il n'est plus possible de l'aller. C'est l'aboutissement pour Dieu et pour ceux qui seront avec lui là-haut, l'aboutissement éternel dans une joie qu'on ne peut pas décrire, mais qu'on rencontrera. Et le but de Dieu est pleinement atteint dans les noces de l'agneau, parce qu'il est comparé au mariage. Dans la Bible, le mariage est une question d'identité. Il existe une telle unité de cœur et d'esprit que les deux ne font plus qu'un lorsque le couple est du Seigneur. Et c'est ce que dit Paul par rapport à Christ et à l'Église dans Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, pour nous aussi, ces noces de l'agneau, si nous le suivons sur cette terre, représenteront l'aboutissement éternel. On ne peut que le comprendre par une révélation du Saint-Esprit, mais qui va aller grandissant. Et l'Église est parfaitement identique, l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens qui auront suivi le Seigneur, elle lui est semblable. Et il nous est marqué ici que réjouissons-nous, car les noces de l'agneau est venue, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'Église lui est identique, elle s'est préparée. Et qu'est-ce que c'est que ces œuvres justes des saints? Tout à l'heure, on en a à peu près parlé aussi. Avec la première œuvre juste qu'on ait pu faire, c'est de recevoir la justification par le sang de l'agneau. Ça, c'est la première. Et puis ensuite, il y aura ces œuvres justes qui seront les œuvres données par la transformation de notre cœur, par le Saint-Esprit, qui ressemblera de plus en plus au cœur de Jésus, de plus en plus avec les sentiments qui seront en lui. Et alors, il nous sera donné de faire des œuvres où ce sera lui qui nous commandera de les faire. Et bien sûr, l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est un concept, mais c'est une réalité. Ce seront tous ceux qui auront voulu suivre l'agneau. Et il s'agit pour moi, pour vous, plutôt pour vous, pour moi, gardons la formule, mais il s'agit de notre amour pour le Seigneur. Si nous voulons être l'épouse de Christ, en faire partie, c'est notre amour pour le Seigneur pendant notre vie sur la terre. Alors la question pour moi, c'est jusqu'où va mon amour pour lui ? Est-ce que je veux suivre l'agneau jusqu'à ce degré où l'amour dans mon cœur s'exprimera pour lui librement, avec une grande joie, sans contrainte, dans une consécration spontanée? Et nous le savons, pour cela, il faut que nous prenions cette décision de renoncer à ce moi, à cet ego qui est si fort dans ma vie, pour que ce soit lui qui puisse en prendre la place. Et c'est pourquoi il est dit dans Galates 2:20, on l'a cité tout à l'heure, « J'ai été crucifié avec Christ ». Ça veut dire ça. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Quelle réalité! Cette réalité, le Saint-Esprit veut la rendre vraie en chacun de nous. Il nous faut que nous ayons à le choisir et à le décider, mais il nous aidera pour cela. Et bien sûr que ceci va passer par des épreuves, par des crises. Mais toutes ces épreuves et toutes ces crises vont permettre d'avoir une soumission à l'agneau et que l'agneau puisse avoir une victoire complète dans mon cœur, partout là où il me fait passer. Il n'y a pas de hasard dans notre vie de chrétien avec Jésus. Le diable veut nous faire croire qu'il y a des choses terribles, qui, elles y sont quelquefois, mais qui sont faites comme ça. Non, le Seigneur nous suit dans le chemin, et le chemin de nos difficultés, on ne le dit pas avec facilité, on sait ce que c'est difficile. Mais ce chemin, il est prévu par le Seigneur pour qu'on puisse nous confier en lui, avoir la victoire en lui, et le suivre de plus en plus, et il fait grandir notre foi. Puisqu'on se rappelle que dans Hébreux 12, il nous faut garder les yeux sur Jésus, qui suscite notre foi et la mène à la perfection. C'est lui encore qui va le faire. Alors, J'ai aussi regardé pour moi où est-ce que j'en suis, en fait, en quelque sorte, peut-être vous aussi. Eh bien, le moi, j'accorde la plus grande importance aux choses suivant qu'elles me touchent personnellement. Je suis souvent gouverné par les conséquences que peuvent avoir pour mes intérêts, les circonstances que je traverse. Je suis souvent tellement attaché aux choses de la terre, alors que je vais bientôt la quitter. Cette vie exerce un tel attrait pour moi, alors que je vais bientôt mourir. Et puis, les bénéfices de cette vie terrestre me donnent une grande énergie pour les acquérir, alors qu'elles vont disparaître. On peut tous se faire, bien sûr, cette remarque, mais elle est tellement vraie. Alors que le ciel et l'éternité ne sont pas aussi concrets pour moi que l'est ce monde. Mais que le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir la vision de la réalité de la vie éternelle, la vision de la position que nous aurons si nous voulons suivre Jésus en étant l'épouse de l'agneau. La parole de Dieu nous parle. Demandons au Seigneur qu'il révèle cette parole en nous pour que cette réalité devienne vraiment le ciel et pas la terre. La terre existe, mais que nous puissions soumettre notre cœur à avoir cette réalité de joie, de bonheur auprès du Seigneur, où nous allons retrouver tous ceux qui nous ont quittés. Pensons à ces choses également. Et à ce moment-là, dans mon cœur, dans nos cœurs, eh bien, les réalités spirituelles, les réalités du ciel deviendront plus réelles que les réalités temporelles. Et nous savons que nous le souhaitons, ça nous en avons besoin. Eh bien, demandons au Seigneur qu'il puisse le réaliser en nous pour que je puisse lâcher prise aux choses terrestres, si on veut bien dire, et que je puisse entièrement donner mon cœur à Jésus, ce n'est pas fait encore pour moi complètement, pour suivre l'agneau partout où il va. Voilà la phrase. La phrase qui a été donnée à Jean-Baptiste, et les premiers ont suivi Jésus, et l'agneau a tout donné pour nous, et c'est dans ce but maintenant que Dieu travaille en permanence pour chaque chose dans notre cœur. Et ceci va tourner autour d'une seule question pour nous. Dans tous mes combats, dans toutes mes douleurs, dans toutes mes décisions, est-ce que mon amour pour le Seigneur sera déterminant? Est-ce que sur tous ces points de ma vie, et chaque jour jusqu'au dernier, est-ce que je veux suivre l'agneau partout où il va? Et est-ce que je veux suivre l'agneau partout où il m'emmène? Parce que partout où il va, dans la pensée, ça va bien, on est d'accord. Mais si on veut le suivre partout où il va, c'est partout où il m'emmène. Et partout où il m'emmène, ce n'est pas des hasards, c'est lui qui le veut. Alors on a une telle promesse pour notre vie, de suivre l'agneau. Oh, c'est des combats, on le sait, et on a besoin aussi là de la communion fraternelle pour s'entraider, s'équilibrer, prier ensemble. Suivre l'agneau partout où il va. Et quand on sera là-haut, quelle grâce, quelle joie éternelle. Mais voilà les quelques paroles que j'avais qui correspondaient à ce qu'avait reçu Benjamin aussi pour la Sainte Cène. Suivons l'agneau partout où il va, partout où il nous emmène. Et c'est pour moi le premier, je sais.
Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu nous as rappelé ce matin. Nous repartons avec un mot d'ordre clair, suivez l'agneau partout où il vous emmène, et Seigneur, que cette parole puisse rester gravée dans nos cœurs, et surtout que nous puissions les uns et les autres apprendre à la mettre en pratique et à te suivre, Seigneur, là où tu veux nous emmener. Merci de raccompagner chacun, de bénir ceux qui n'étaient pas présents. Et Seigneur, nous te remettons cette semaine qui est devant, que tu puisses nous diriger, nous conduire en toutes choses, là où tu veux nous emmener. Amen. Amen.